Et donc nous sommes toujours sur Radio Libertaire, la radio sans dieu, sans maître et sans publicité, pour une émission de sortir du capitalisme consacrée aujourd'hui à la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme, autour d'un ouvrage collectif, Critique de la sécurité, accumulation capitaliste et pacification sociale, paru donc aux éditions Hétérotopia en septembre 2017. Et nous sommes avec un co-directeur de l'ouvrage, Memphis. Et nous parlons maintenant, après avoir parlé plus généralement du projet de ce livre, qui est de repenser une critique de la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme, comme rapport social, et non pas simplement comme des politiques répressives, même si c'en est une dimension. Donc maintenant, on va parler plus spécifiquement de la contribution à cet ouvrage collectif de Mark Nucleus, qui est une espèce d'approfondissement, disons, de tout ce qu'on a pu évoquer dans la première partie, qui offre des pistes intéressantes et même des développements intéressants, puisque c'est une élaboration de long cours. Hein. Mark Nucleus travaille sur ces questions depuis pas mal d'années. Et puis, évidemment, on ne s'interdira pas d'en pointer certaines limites ou de nuancer certains développements. Donc là, je vais laisser faire donc Memphis, le co-directeur de l'ouvrage, pour cette partie-là, puisque lui a eu accès non seulement donc, à ce texte qui est vraiment, que moi je trouve assez brillant, hein, intellectuellement, parce qu'il revient même à Marx, et qui commente la constitution de 1791, et on droit à la liberté, l'égalité, la propriété et la sécurité, même si en français on dit sûreté, mais bon, globalement, c'est la même chose. Et donc, c'est un article très intéressant, et donc on voulait parler donc de cet article, et plus généralement, puisque toi, tu as eu accès aussi à ce qu'il a écrit en anglais, parler un peu des thèses de cet auteur.
Oui, alors, Mark Nucleus, ça fait effectivement deux décennies, bientôt, depuis le milieu des années 90, au moins, qui s'attache à élaborer une critique radicale de la sécurité, la fonction de la sécurité dans la reproduction du capital et du capitalisme, et essayer de saisir aussi comment la sécurité y contribue. Donc il a publié nombreux bouquins, donc je vais en citer quelques-uns, Administering a Civil Society Towards a Theory of State Power. Il a sorti Anti-Security, un bouquin donc, dans lequel il s'attache vraiment à déconstruire, à faire une critique radicale du concept de la catégorie sécurité elle-même. Il a après sorti des Critique of Security récemment. Il a sorti un bouquin en 2014 qui s'appelait Air Power, Police Power, quelque chose comme ça, où il tente de penser la continuité entre la guerre et la police. Et moi, ce qui me semble vraiment intéressant dans son œuvre qu'il a souvent, dans laquelle il a souvent collaboré avec Georges Rigakos, qui est un criminologue critique aussi, c'est de s'attacher à interroger le concept de sécurité lui-même à un niveau d'abstraction assez élevé, et pas juste à produire une analyse critique de telle ou telle politique sécuritaire ou tel dispositif. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une tentative, à mon sens, de penser ensemble la dynamique du capital et la sécurité. Il y a vraiment une volonté de produire une théorie critique de la sécurité. Et c'est pour ça qu'on l'a sollicité donc, pour ce bouquin, parce que ça rentrait complètement dans notre volonté justement de s'extraire un peu de ce qu'on disait au début de l'émission, de cette temporalité strictement irréactive, pour se situer sur un plan théorique un peu plus général, quoi.
Et donc du coup, c'est une contribution qu'il a rédigée spécifiquement pour votre ouvrage, voilà. Même si évidemment, j'imagine que ça reprend beaucoup de choses.
Ça synthétise, voilà. C'est une contribution qui synthétise un peu toutes les thèses fortes qu'il a développées tout seul ou avec Rigakos, ou dans le cadre donc d'un, alors je sais plus si ça existe encore actuellement, mais dans le cadre d'un réseau de penseurs critiques qui s'appelle Antisécurité, et qui a justement sorti une déclaration d'antisécurité que j'ai traduite pour Vacarme, où justement à travers quelques thèses fortes, il s'évertue à déconstruire un ensemble de dichotomies qui nous paraissent naturelles, par exemple la sécurité contre la liberté, le public contre le privé, la civilisation contre la barbarie, etc. Et du coup, la contribution donc de Mark Nucleus à notre ouvrage, c'est peut-être la contribution la plus théorique et du coup, celle qui répond aussi à un niveau de généralité la plus forte à la question du rapport entre sécurité et capitalisme.
Oui, et donc c'est pour ça qu'il repart même de Marx. Peut-être ça
Oui.
pourrait être intéressant de revenir sur comment est-ce que comment est-ce qu'il repart de Marx pour du coup faire de la sécurité une catégorie fondamentale du capitalisme, justement.
Ouais, bah, il part justement du rapport entre la sécurité et propriété privée, notamment des textes de Marx sur les droits de l'homme, pour montrer que comment les deux sont liés en quelque sorte et qu'on n'est pas dans cette opposition que font souvent les auteurs libéraux entre les deux, mais de montrer que ce qui est sécurisé, c'est le droit à la propriété privée et du coup le type de liberté qui est rattaché, quoi.
Et du coup, est-ce que dans cette conception, on ne pourrait pas dire que, en fait, selon les auteurs libéraux, la liberté, c'est un peu la. Bon, ça va être un peu redondant ce que je vais dire, mais c'est un peu la liberté, positive et la sécurité, c'est, la liberté négative, c'est-à-dire qui est nécessaire pour préserver cette liberté capitaliste, quoi. C'est-à-dire que la liberté, qui est donc. Transhistoricisé, fétichisé, c'est la liberté capitaliste positive, la liberté de vendre sa force de travail, la liberté d'exploiter, la liberté d'approprier, etc. Et d'autre part, la sécurité, ce serait plutôt la liberté négative, c'est-à-dire protéger la liberté capitaliste. La sécurité protégerait donc la liberté capitaliste. Enfin, ce serait les envers d'une même pièce. Alors, du coup, pour les libéraux, la sécurité aussi, c'est quelque chose quand même de positif.
Oui.
Et du coup, enfin, on voit que finalement, l'idéologie libérale quand même traduit bien la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme, avec ses deux versants, la liberté capitaliste positive, qui est transhistoricisée comme liberté, et la liberté capitaliste négative, celle qui est nécessaire au fonctionnement du capitalisme, de manière négative et contrainte, et qui est la sécurité, quoi.
Oui, effectivement, ce que Nucleus propose dans son œuvre, c'est un peu disons une critique de la sécurité qui est un peu similaire enfin, dans le projet, du moins, ce que Marx propose dans sa critique des classiques de l'économie politique libérale. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire c'est des mensonges, ces catégories. Il s'agit de montrer, de discerner les rapports sociaux qui les caractérisent et de montrer comment qu'elles sont pas naturelles en fait, mais qu'elles sont historiquement ancrées et de montrer comment elles sont advenues en quelque sorte, quoi. Et de prendre finalement au sérieux ces catégories. C'est-à-dire il s'agit pas de. Bien sûr qu'il y a une dimension idéologique de la sécurité, et c'est rappelé par exemple dans la déclaration d'antisécurité, c'est-à-dire que voilà, elle dépolitise, elle masque aussi certains phénomènes, mais en même temps, il y a un contenu objectif derrière de cette sécurité qui répond à un besoin objectif.
C'est ce que dit
Ouais.
d'ailleurs Marx à propos des catégories de l'économie politique. Il dit c'est pas juste des illusions,
Voilà,
c'est des catégories, c'est des structures fondamentales du capitalisme. Et finalement, ce que fait Marx avec l'économie politique, c'est d'une certaine façon, il la défétichise et il en fait donc une arme critique, c'est-à-dire par exemple voilà sur le travail capitaliste, le travail au sens capitaliste est une catégorie générale, transhistorique, mais qui est quand même utile pour comprendre le capitalisme chez les libéraux, et donc Marx la reprend, mais évidemment il en fait une notion critique, enfin au moins en partie, parce que évidemment il y a des ambiguïtés de Marx par rapport à ça, mais enfin globalement le projet de Nucleus c'est de défétichiser cette théorie de la sécurité libérale.
Voilà, il y a, disons, un double projet. C'est d'un côté prendre un peu au sérieux cette catégorie et la défétichiser, la réhistoriciser, montrer ce qu'il y a derrière, montrer en quoi elle est liée à la dynamique du capital. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et en même temps, Et ça, c'est aussi contester son l'hégémonie de cette catégorie et de ses effets dans les discours, et notamment dans les discours et les analyses politiques, dans la mesure où la sécurité, par exemple, colonise l'ensemble du discours. On l'a vu dans les 30 dernières années, c'est-à-dire on a vu apparaître la thématique de la sécurité alimentaire. Avant, on parlait de famine, un truc comme ça. Et même du point de vue de la conscience bourgeoise, des analyses bourgeoises, les questions alimentaires, c'était des questions économiques, sociales, climatiques aussi, mais ce n'était pas envisagé sous l'angle de la sécurité. Et à partir du moment où on envisage ces questions sous l'angle de la sécurité, ça amène à des réponses sécuritaires finalement, quoi. C'est la même chose pour la question de la sécurité de l'emploi, ou ce genre de choses, en fait.
C'est une notion totalitaire,
C'est une
quoi.
notion totalitaire qui colonise et parasite les imaginaires, les discours. Et du coup, ça, c'est le deuxième versant du travail de Nucleus. C'est aussi de la contester. Et de ce point de vue-là, il y a un travail contre-hégémonique à faire, où c'est, même si la sécurité est un rapport social objectif, pas juste un ensemble de discours que tu pourrais déconstruire et dont tu pourrais ensuite en sortir. En même temps, une des premières étapes à faire, c'est de réenvisager tout un ensemble de problèmes et de questions, à travers un discours qui soit pas celui de la sécurité, justement, quoi.
Ah, donc avec d'autres concepts, contrairement à ce que précisément fait beaucoup la gauche nationale étatiste, qui joue un peu une certaine sécurité contre d'autres. Donc la
Voilà,
sécurité,
ouais.
on joue la sécurité sociale, on joue la sécurité de l'emploi
Ouais.
contre la sécurité répressive et tout ça, quoi.
Voilà, et ce que propose Nucleus, c'est de dire bah, il faut, enfin, il faut sortir de cette sémantique sécuritaire, de ces cadres de la sécurité. Du coup, il y a un peu une tension, enfin pas une tension, mais un aspect dual. Je veux dire, il y a
Comme
effectivement.
chez Marx d'ailleurs,
Ouais,
qui est un
ouais.
continuateur des Lumières et en même temps un critique des Lumières.
Voilà, ouais. Mais ce qui me semble en l'occurrence très intéressant, du coup, donc c'est à partir du moment où il se propose de faire une critique radicale de la sécurité, c'est de voir en quoi les rapports sociaux et les processus sociaux qui sont subsumés dans cette catégorie de sécurité sont liés au capitalisme et à sa dynamique propre. C'est-à-dire ce qui me semble très très intéressant dans son travail, c'est d'essayer de spécifier un peu les dynamiques sociales qui sont comprises dans son, qui sont comprises à travers ce concept de sécurité et de les rapporter à la dynamique spécifique du capitalisme et de proposer des outils pour les penser, quoi. Et pour les penser autrement qu'à travers juste ce qu'on critiquait tout à l'heure, c'est-à-dire le discours strictement répressif qu'on a souvent, enfin le discours de l'anti-rep qu'on a souvent à gauche, quoi. Parce que ça nous permet d'historiciser un peu le contenu de la sécurité et de voir que c'est des modalités de pouvoir qui sont propres au capitalisme et qui doivent être pensées en rapport avec le capitalisme.
C'est pas l'éternel retour de la répression
Ouais,
étatique depuis des
voilà,
milliers
ouais.
d'années,
Et
quoi.
c'est voilà comme on a souvent, par exemple, notamment dans un certain discours anarchiste, où on a une conception un peu transhistorique du pouvoir, où c'est juste les acteurs du pouvoir qui changent, mais globalement, en gros, c'est toujours le bâton qui s'abat sur le sujet révolutionnaire tel qu'il soit, quoi, quel
Oui,
qu'il
qui.
soit, voilà, ouais. Mais ce qui les intéresse, c'est de voir comment le bâton est mobilisé, mais dans des rapports sociaux spécifiques, quoi, en quelque
Et
sorte.
qui sont changeants
Voilà, ouais.
aux différentes phases du capitalisme, et évidemment de manière très différente de ce qu'il y avait avant le capitalisme.
Exactement. Et du coup, et c'est ça pour moi, ce qui constitue le cœur de sa réflexion, c'est ce travail de spécification, en quelque sorte, du contenu social propre de la sécurité. Lui, ce qu'il propose de faire, c'est de repenser la sécurité sous l'angle de ce qu'il a de la pacification. Il propose le concept de pacification, donc pour penser le contenu social propre de la sécurité. Donc c'est un contenu qu'il a extirpé donc du langage de la contre-insurrection coloniale. Et la pacification, c'est à la fois donc la répression de la subversion et la production de l'ordre capitaliste. Et les deux vont avec.
C'est détruire un maquis et construire des écoles, comme disaient les généraux français en Algérie, quoi.
Voilà, oui. Bon, et du coup, donc, dans la lignée, enfin, d'autres auteurs, comme Mathieu Rigouste aussi, qui travaille sur la contre-insurrection, il fait ce travail de généalogie sur la notion de pacification, mais contrairement à ces auteurs-là, la notion de pacification, pour lui, il l'utilise davantage comme un opérateur théorique plus général pour penser la sécurité et son rôle dans la reproduction
c'est
du capitalisme.
C'est pas uniquement une analyse qui est liée
historique,
à des...
voilà, c'est pas, c'est, lui, il propose pas de penser la continuité de la contre-insurrection à l'âge néolibéral. Il en tire un concept pour penser le capitalisme de manière
de manière plus
générale,
ouais.
Oui, voilà.
Qui n'est pas lié à des opérations spécifiques,
voilà,
aux continuités, par exemple, que Mathieu Rigoust montre entre la contre-insurrection en Algérie et la gestion répressive des banlieues. Et là, vraiment, il y a... lui, il en fait vraiment un concept plus général et qui est fort, et mais qui est provoquant et qui est assez intéressant, stimulant là-dessus, quoi.
Ouais. Et donc, en quoi la sécurité et ses processus sociaux sont-ils liés à la dynamique du capital? Alors lui, il va y répondre de la manière suivante. C'est qu'il part de la question de l'accumulation primitive. Et il se situe, de ce point de vue-là, dans une tradition d'analyse de certains auteurs comme Werner Bonhoeffelt, qui considère que l'accumulation primitive, c'est pas seulement un moment historique fondateur, c'est-à-dire où les producteurs sont séparés des moyens de production, c'est pas juste ce moment de divorce initial, c'est une dynamique normale du capitalisme où continuellement les producteurs sont séparés des moyens de production, c'est-à-dire c'est l'ensemble des modalités à travers lesquelles ce divorce est constamment reproduit.
Donc c'est la perpétuelle création des conditions générales de l'ordre capitaliste, donc toujours déposséder les individus. C'est une accumulation primitive indéfinie au sens où l'ordre capitaliste n'est pas, une fois qu'il a émergé, voilà, il est indestructible. Non, il doit se reproduire continuellement, et il a besoin de tout un tas d'appareils, de dispositifs pour faire ça, quoi.
Voilà, et du coup, c'est un peu son présupposé théorique de base, et qui partage du coup avec certains auteurs comme Bonhoeffelt ou Tomba. Et c'est penser que le capitalisme, pour reproduire sa logique propre, a besoin aussi d'une régulation et d'une intervention externe continuelle pour justement défendre, sécuriser sa dynamique même et son automouvement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir d'automouvement du capital et qu'il ne peut pas avoir reproduction donc des rapports de classe qui caractérisent ce mouvement du capital sans qu'il y ait constamment une intervention pour en recréer les conditions perpétuelles. Alors ça pose certains problèmes dont on va parler tout à l'heure, mais c'est le présupposé théorique de base de la pacification. Et du coup, la pacification, c'est la reconduction à travers tout un ensemble de modalités de ce divorce entre les producteurs et les moyens de production, et c'est la reproduction d'une force de travail disponible et existante, quoi, exploitable et du coup politiquement neutralisée aussi, quoi.
Donc, c'est là où je pense que c'est intéressant l'usage qu'il fait du concept de pacification et de sécurité, c'est qu'il pense le capitalisme non pas seulement comme l'économie, les rapports économiques qui sont là, etc., etc., mais aussi du fait qu'il faut créer tout un contexte social qui permet à ces rapports économiques de fonctionner.
Voilà.
Et c'est là, c'est à ça que sert l'État, notamment, qui est le principal responsable de la reproduction de l'ordre capitaliste, mais aussi tout un tas d'autres appareils. Et ça, je trouve que c'est, du coup, c'est assez intéressant. Et puis, ça montre aussi, un petit peu comme dans les discours qu'ils citent là de généraux français en Algérie, qui disent il faut pas se contenter de raser un village ou de détruire un maquis, il faut derrière construire des écoles, etc., etc. De même, le capitalisme, ou l'État en particulier, ne peut pas se contenter de réprimer, il doit également construire une prison, entre guillemets, hein, si je pousse la métaphore jusqu'à l'extrême. Il doit pas seulement détruire des conditions de vie autour, mais il doit créer une vie hétéronome à la place, quoi.
Ouais. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la sécurité, c'est finalement, c'est pas juste cette figure de l'État, enfin l'État libéral qui serait juste là uniquement comme un gardien en quelque sorte, qui intervient quand il y a un problème.
Ça, c'est l'idée d'Adam Smith,
oui,
notamment.
Oui, voilà, ouais. Mais qui a au fond une centralité de la violence et de la guerre dans les rapports sociaux capitalistes, et que la violence violence et la guerre est non seulement fondatrice, mais inhérente, consubstantielle au capitalisme, et qu'elle constitue pas des moments d'exception, en quelque sorte, même s'il y a bien sûr des différences énormes entre les modalités d'exercice de la violence à un moment donné et selon les contextes et séquences historiques, on est d'accord, mais il y a quand même cette permanence de la guerre, et de ce point de vue-là, il se situe, à mon sens, dans toute une tradition d'analyse des rapports sociaux sous l'angle de la violence et de la guerre, et rejoint, dans une certaine mesure, les analyses de Negri ou de Comité Invisible sur l'organisation guerrière des sociétés modernes.
Mais qui vient un peu de Foucault, en fait, c'est-à-dire qu'il essaye de, presque, encore une fois, on va revenir à Foucault et à Marx, mais il essaye de croiser mais à mon avis, de manière intéressante, parce que on va faire une émission notamment de critique un peu de cette vision exclusive de la guerre civile comme paradigme, parce que c'est une notion qui, si elle n'est pas rattachée du coup à une analyse de la société capitaliste, qui devient vraiment n'importe quoi.
Transhistorique.
Et du coup, finit par faire l'apologie de la guerre civile et tout ça. Mais là, ce qui est intéressant chez Mark Nucleus, c'est qu'il pense du coup la guerre qui existe dans les sociétés capitalistes, mais c'est une guerre qui se fait dans et par les catégories capitalistes. Ouais. Et pas comme une espèce de... sinon, on retourne à une espèce d'analyse un peu hobbesienne, oui, où la société, c'est l'état de nature, c'est la guerre permanente. Ouais. Et là où on voit plus trop quelles pourraient être les perspectives de dépassement. Autant on peut espérer dépasser le capitalisme, autant dépasser la guerre civile si elle est consubstantielle à toute société, aux relations de pouvoir. Un peu comme Foucault, effectivement, qui disait qu'on ne pouvait pas dépasser le pouvoir. Oui, on ne peut pas dépasser le pouvoir, mais du coup, c'est peut-être pas ça qu'il faut dépasser. Quoi.
Ouais, c'est de voir comment, à un moment donné, dans une société donnée, le pouvoir est agencé, quelles sont ses modalités. Pareil pour la violence. Alors, bien sûr qu'il y a de la violence dans toutes les sociétés, mais ça, c'est une banalité. Ce qui est intéressant, c'est de voir c'est comment la violence est organisée, quelle fonction elle dessert, en quelque sorte. Quoi.
Et comment est-ce qu'on peut la réduire? Comment est-ce qu'on peut la réagencer? Comment est-ce qu'elle peut se limiter à certaines choses? Enfin, voilà.
Voilà, ouais. Et il y a une belle citation de Nucleus, ici, donc extrait d'un article qui a été publié dans la revue Social Studies, un numéro consacré à la notion de la pacification, qui devrait prochainement sortir en français, et où il détaille la manière dont, enfin, où il détaille un peu sa vision de la pacification, sa théorisation de la pacification sous l'angle de l'accumulation primitive. Il y a une belle citation, si tu permets, je la cite. Alors, à propos de Marx, il écrit: Marx met en exergue ici le fait que le capitalisme n'est pas un ordre spontané, et que, à contrario du mythe d'une origine idyllique de la propriété privée, la violence joue un rôle central dans l'histoire réelle. L'enjeu de l'analyse de Marx est la constitution de l'ordre bourgeois à travers ce qu'il nomme l'accumulation primitive, l'utilisation de la force afin de séparer les individus des moyens de subsistance autres que le salaire. Je voudrais suggérer que la violence du processus de l'accumulation retranscrite par Marx se trouve au cœur du processus de pacification. Donc voilà, ça c'est vraiment le cœur du travail de Nucleus et de sa lecture des passages de Marx sur l'accumulation primitive à la fin du Capital. Et l'accumulation primitive donc est un présupposé du rapport social capitaliste, et elle permet cette thèse donc de penser ensemble la violence d'un côté et l'accumulation capitaliste, et du coup d'ancrer la sécurité sous l'angle de la pacification au cœur même des structures et dynamiques du capitalisme.
Et pas seulement comme du coup une espèce d'état d'exception qui serait propre uniquement aux situations coloniales ou aux situations de crise révolutionnaire comme par exemple la Commune de Paris et tout ça. Et effectivement, c'est intéressant effectivement de penser la violence ordinaire des rapports sociaux capitalistes et de penser aussi leur nécessité qu'elle a pour la reproduction de l'ordre capitaliste global. C'est-à-dire qu'elle est à la fois constitutive des rapports sociaux capitalistes et en même temps elle est nécessaire pour les reproduire, et finalement à l'État, lui notamment, a le rôle de pour reproduire l'ordre capitaliste, justement d'exercer à travers tous ces appareils des violences qui sont pas directement économiques, donc capitalistes, mais qui ont bien pour but de reproduire les rapports sociaux capitalistes.
Ouais, c'est il me semble le cœur du travail de Nucleus qu'on a voulu ici retranscrire dans ce, faire découvrir dans ce bouquin, quoi, et qui permet peut-être aussi donc d'ancrer toutes les discussions autour de l'état d'urgence, etc., dans une perspective d'émancipation plus large aussi, qui part d'une critique de la totalité sociale et de la place de la sécurité, donc dans la reproduction de cette totalité, qui l'insère dans un projet d'émancipation plus large où il ne s'agit pas seulement de défendre dans une conjoncture spécifique les droits démocratiques, etc., ce qui me semble totalement nécessaire, mais de montrer comment ces modalités de gestion sécuritaire qui s'accentue au stade actuel ne sont effectivement que l'accentuation de dynamiques qui sont toujours là finalement quoi, qui prennent bien sûr des formes nouvelles qu'il faut analyser dans leur nouveauté etc. mais de voilà
On ne peut pas se limiter à une critique de l'état d'urgence, il faut
oui
faire une critique
voilà
du capitalisme de
ouais.
manière générale, quoi.
Voilà ouais.
Et c'est pour ça que c'est intéressant justement toute cette critique, parce que ça pourrait paraître un peu étrange de faire critique de la sécurité. C'est quoi la sécurité?
Ouais.
Et là, on comprend vraiment tout au long de cette émission que finalement, critiquer, faire une critique de la sécurité, c'est, comme disait Marx, être radical, donc prendre les choses à la racine, quoi.
Exactement, ouais. Et donc c'est de montrer aussi que la critique de la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme et comme donc présupposé et condition de possibilité des autres catégories va avec une critique des autres catégories aussi quoi. Et donc c'est on s'inscrit dans une critique de la totalité et pas juste de la critique de certaines modalités sécuritaires spécifiques, pas juste une critique
Oui,
de
c'est aussi une critique de l'État, du travail, de la marchandise et tout ça, quoi.
Exactement, ouais.
Et alors du coup, peut-être avant de terminer cette émission, quelles seraient brièvement peut-être les limites que tu vois au travail et aux travaux donc de Marc Nucleus?
Oui, alors, bon, je pense que il y a un ensemble de limites. Déjà, la thèse, le présupposé de la thèse de la pacification, celle de la permanence de l'accumulation primitive, moi, elle me pose problème dans la mesure où, enfin, pour moi, l'accumulation primitive, c'est le divorce entre les producteurs et les moyens de production, mais par des moyens externes et violents. Or, souvent, dans tous les travaux donc de Nucleus, mais aussi de Werner Bonhoeffel, etc., qui insistent sur la nécessité de séparation, le caractère nécessairement violent et externe de ça disparaît parce que et on oublie que le capitalisme par sa dynamique même
Arrive à reproduire ces
arrive à se
conditions.
reproduire ces conditions sans qu'on ait forcément besoin constamment d'une intervention de l'État en fait. Enfin, c'est une banalité, mais on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire généralement pour le prolétaire, personne te force à aller vendre ta force de à extraire de ton lit avant de ta force de travail le matin, si ce n'est la nécessité de te reproduire et de survivre tout simplement, quoi. Et c'est cette logique de la valeur qui impose ses buts sociaux aux prolétaires, aux travailleurs ainsi qu'aux capitalistes, justement, qui à partir du moment où elle les domine, où elle s'impose, à un moment, on n'a plus be une fois que toute cette dynamique a été mise en route, elle n'a plus besoin d'un support extérieur, mais à partir du moment où
Elle s'auto-reproduit d'une certaine façon.
elle s'auto-reproduit, et du coup, il y a des longues périodes où il n'y a pas besoin justement d'une intervention drastique de l'État pour réprimer des mouvements sociaux forts, et c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure par rapport au néolibéralisme. La sécurité intervient un moment, enfin, l'approfondissement des dispositifs sécuritaires intervient un moment, enfin, sur la défaite des mouvements révolutionnaires des années 60 et 70.
Oui, et ce que je voulais dire, c'est pour donner un exemple, c'était que, par exemple, une fois qu'on a exproprié, disons, les paysans de leurs terres et qui sont devenus des prolétaires, la nouvelle génération de prolétaires, d'une certaine façon, n'a pas besoin de la réexproprier, elle est déjà expropriée.
Voilà,
Et
ouais.
donc, du coup, disons, pour nuancer du coup la thèse de Nucleus, sa thèse n'est pas complètement bête. Effectivement, il y a quand même besoin, par exemple, sa thèse marcherait mieux, par exemple, sur la question de l'école, par exemple. Effectivement, on dépossède à chaque génération les individus des moyens d'une existence autonome, des savoir-faire d'une existence autonome, d'une réflexion critique et tout ça. Là, c'est vrai. Mais effectivement, par contre, sur l'aspect un peu matériel, entre guillemets, la dépossession a déjà eu lieu
Oui.
et la prolétarisation, une fois qu'elle a eu lieu dans une génération, on n'a plus besoin de la répéter aux générations suivantes, quoi.
Bien sûr, et moi il me semble que de ce point de vue-là, il y a un peu une faillite de du projet de Nucleus, qui est de produire une théorie générale de la sécurité dans la mesure où la pacification reste finalement un concept historique. C'est-à-dire qu'il ouvre des perspectives pour appréhender la manière dont le capitalisme tend à user de la violence dans les modes de gestion et de répression de la lutte de classe, la notion de pacification reste une catégorie d'analyse historique valable pour l'analyse de la répression des moments spécifiques de lutte et de rébellion et de la gestion de certains types de groupes et populations subalternes. Il me semble qu'il y a une faillite de ce concept pour vraiment saisir la manière dont la sécurité contribue à reproduire le capitalisme pris dans sa moyenne idéale, en quelque sorte, donc à un niveau d'abstraction très haut. C'est un très bon concept historique pour penser la répression du mouvement ouvrier au 19e siècle, pour penser les guerres coloniales, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse le généraliser comme ça pour penser et en faire un concept théorique général pour penser le capitalisme.
Oui, il faut le prendre peut-être plus comme une métaphore qui vise à interroger, à choquer, comme Marx aussi utilise des métaphores qu'on n'est pas obligé forcément de reprendre telles quelles de manière réaliste.
Ouais.
Mais effectivement, il faut, prendre en tout cas ce concept avec précaution, et c'est pour ça qu'effectivement le concept de sécurité de manière générale paraît quand même un petit peu, enfin finalement est un peu idéal, dans le sens où il y a quand même cette dimension un peu répressive et négative,
oui.
Voilà, mais en même temps il y a aussi le côté banal et quotidien du concept qu'on retrouve partout alors que c'est vrai que pacification dans l'imaginaire ça renvoie quand même aux guerres coloniales, et du coup c'est peut-être un petit peu fort quand même d'utiliser ce concept pour appréhender le capitalisme de manière générale.
Ouais, et de ce point de vue-là, du point de vue du constat historique, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement Nucleus reste quand même très ancré dans le paradigme de la répression de la subversion révolutionnaire, quand il nous dit que la pacification, c'est à la fois la répression et la production de l'ordre bourgeois, c'est ne pas prendre en compte finalement les autres modalités à travers lesquelles le prolétariat en tant que sujet révolutionnaire a été intégré neutralisé finalement. Et du coup, il reste dans cette pensée du sujet révolutionnaire, dans l'idée que le capitalisme produit nécessairement son fossoyeur, alors que on a quand même déjà une tendance générale à travers l'intégration à l'État, le welfare state, etc., à une neutralisation du prolétariat et certains moments historiques, dont le nazisme, qui ont contribué à accélérer cette intégration. Et du coup, il me semble qu'il n'arrive pas vraiment à penser la contribution de la sécurité à la reproduction du capitalisme par-delà la question du sujet révolutionnaire, en fait. Et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure. Du coup, il retombe un peu dans la vision classique de la gauche qu'on critiquait tout à l'heure, en fait, quoi.
Et du coup, peut-être qu'il faudrait envisager une autre manière de penser le concept de pacification, c'est-à-dire, en fait, la pacification, elle peut prendre la forme, c'est pas uniquement une forme extrêmement répressive et violente,
oui.
Ça peut être aussi une forme négociée avec des réformes sociales, le dispositif du compromis fordiste, de la sécurité sociale de 44-45 pourrait être un peu à la fois et très peu violent, même apporte des améliorations matérielles et tout ça,
ouais.
Et en même temps c'est un opérateur de pacification merveilleux et peut-être plus efficace qu'une guerre contre-insurrectionnelle.
Bien sûr, et alors que Nucleus nous dit qu'il y a une continuité entre la sécurité sociale et la sécurité au sens policier et militaire, il n'en tire pas les conclusions finalement analytiques, dans le sens où il reste pris dans le paradigme de la violence directe exercée contre le prolétariat qui serait subversif par nature, en quelque sorte, quoi. Et du coup, ça me semble être la question de l'accumulation primitive et la question de la prépondérance du sujet révolutionnaire dans ces analyses. me semble être les deux limites principales de sa réflexion. Et du coup, ça fait que même du point de vue de l'analyse historique, empirique, sociologique, il y a plein de processus sociaux qui ne peuvent pas vraiment être pensés sous l'angle de la pacification. Comment penser, par exemple, les questions d'espionnage industriel, c'est-à-dire des questions qui concernent la sécurité dans le cadre de la compétition intercapitaliste? Ou comment penser la question de la biosécurité, c'est-à-dire la protection de la force de travail, ce qu'on disait tout à l'heure, la protection de la force de travail face à tout un ensemble de phénomènes, catastrophes naturelles, maladies, etc.
Là, ça renvoie pas mal justement à
Ouais,
Foucault, le fait que
voilà, ouais.
effectivement en fait le pouvoir doit aussi faire des choses positives entre guillemets
Ouais.
pour se reproduire, et donc il doit garantir la sécurité de sa force de travail, non pas parce que il est philanthrope et parce que il œuvre pour le bien de l'humanité, mais tout simplement parce que pour faire fonctionner le capitalisme, il y a encore besoin de force de travail. Et donc oui, ça c'est important
Ouais.
effectivement. Et c'est vrai que la réflexion de Mark Nucleus peut-être permet pas suffisamment de penser cette dimension-là, et
Ouais.
que vous justement dans votre approche dans l'introduction permet quand même, je trouve, de bien penser cette question-là.
Enfin, moi, ce qui me semble manquer un peu dans l'approche Nucleus et généralement dans les différentes approches qui tentent de penser les pratiques sécuritaires d'un point de vue marxiste, c'est qu'on ne pense pas assez le lien entre la sécurité et le type de rapport social et le type de domination qui caractérise le capitalisme, c'est-à-dire une domination abstraite de la logique de la valorisation qui s'impose à tous, qui est bien sûr médiatisée par des stratégies des stratégies de classe particulières, on est d'accord, mais qu'on reste finalement souvent dans une vision résolument instrumentaliste de la sécurité et qu'on ne pense pas assez la sécurité dans son lien avec la logique de la valeur et ses présupposés dans le régime de la liberté marchande, alors que Mark Nucleus critique justement la métaphore de la balance liberté-sécurité, mais qui l'analyse pas assez profondément pour voir comment le capitalisme est précisément un mode de production qui passe par la liberté, la liberté par une certaine forme de liberté en tout cas, quoi.
Par la liberté, et par la liberté du coup sous sa forme positive, la liberté marchande, et sous sa
Ouais.
forme négative qui est justement la sécurité.
Ouais.
Oui, petite parenthèse, il y a aussi quelque chose qui est assez intéressant sur la question de l'internalisation justement de la logique sécuritaire par les subjectivités. C'est le fait que, comme le dit Nucleus, maintenant il n'y a plus besoin finalement d'un régime fasciste pour faire en sorte que les gens se comportent comme des bons sujets qui vont reproduire l'ordre social capitaliste, puisque finalement toutes ces contraintes et ces logiques de surveillance, de délation et tout, ont été finalement se sont répandues, ont été intériorisées par la population. Et ça me fait un peu penser, bon ça c'est un petit peu philosophique, mais un peu à Kant qui disait finalement voilà qu'il fallait passer à un régime. Il fallait mettre fin à l'hétéronomie, au fait qu'on subisse les lois. Mais finalement, pratiquement, comme il proposait évidemment pas de sortir du capitalisme, mais plutôt qu'il était très fan de l'économie politique, finalement, sa théorie de l'autonomie conduisait finalement à intérioriser les lois morales, et qui sont en fait pratiquement les lois du capital. Et donc, du coup, est-ce que tu pourrais justement rappeler brièvement cette intuition assez intéressante de Nucleus?
Oui, alors effectivement, il y a d'une part l'aspect subjectivation, le rôle que la sécurité joue dans la subjectivation des individus, dans le fait que voilà, ça crée des individus vigilants, anxieux, qui font attention dans le métro, mais aux messages de prévention, etc. Et il y a aussi l'ensemble des mesures répressives qui ont été mises en place et qui peuvent être mobilisées dans certaines situations. Dans le cadre de l'antiterrorisme notamment, donc depuis les années 80, qui est radicalisé en France, mais aussi dans le monde anglo-saxon depuis le 11 septembre, c'est de montrer que finalement que toutes ces mesures-là, donc ça rejoint la critique de la thèse de l'état d'exception, finalement, elle témoigne pas tant d'une suspension de la démocratie, mais au contraire, elles permettent d'agencer, de moduler la démocratie libérale en appuyant ces qualité illibérale intrinsèque à travers des dispositifs très spécifiques qui permettent de cibler des individus très spécifiques sans qu'on ait besoin de mobiliser l'ensemble de la population et de soumettre l'ensemble de la population à une suspension de ses droits démocratiques. Alors il le dit très bien, c'est qu'aujourd'hui, on assiste pas à une montée de l'autoritarisme et encore moins une montée, à une fascisation de l'État bourgeois dont on nous rabâche les oreilles, hein, au moins depuis les années 60. On peut penser par exemple à la RAF qui justifiait ses actions et la lutte armée par le fait que vous voyez, ça mettrait à nu la vraie nature de l'État, ça la pousserait à réprimer davantage les populations et du coup à montrer sa nature fasciste. Alors pas du tout. Aujourd'hui, on a toutes sortes de dispositifs qui font que la démocratie n'a pas besoin de se suspendre au profit d'un régime autoritaire, voire fasciste, mais qu'elle a tout un ensemble de modalités qui permettent de prendre en charge les populations de manière différenciée. Et donc Nucleus insiste là-dessus. Il nous dit en effet qu'il est certain qu'une telle résurgence du fascisme n'est nullement nécessaire compte tenu de tout ce qui peut être fait pour des raisons de sécurité au nom du libéralisme et de l'État capitaliste. Confinement sécuritaire, détention sans procès, torture, extradition, exécution sommaire, suspension de liberté et de droit sans qu'il ne soit jamais rétabli, etc. Donc toutes ces mesures permettent d'une certaine manière de faire tout ce que le fascisme...
Tout ce que le fascisme doit faire en suspendant complètement l'ordre constitutionnel.
Voilà, oui, pour neutraliser la menace révolutionnaire. Et tout ça, le libéralisme, maintenant, avec tous ces dispositifs là, est en mesure de le faire sans se suspendre lui-même. Et du coup, ça rejoint... Bon, ça résonne notamment avec le texte de Boucalas, qui nous dit que finalement, on n'assiste pas à un état d'exception, mais plutôt à une nouvelle phase de l'étatisme autoritaire qui est une tendance inhérente à l'État capitaliste normal, démocratique, et ça rejoint aussi, dans une certaine mesure, toutes sortes de critiques de l'antifascisme aussi, c'est-à-dire que voilà, ils tentent souvent, en pointant le danger fasciste, à oublier la critique de la démocratie libérale, finalement, quoi. Et ça me semble très intéressant, parce que ça montre que finalement, ce qui est à critiquer dans la sécurité, c'est pas la fascisation rampante, c'est vraiment la démocratie libérale comme mode de gouvernement et régime politique très, très fluide qui s'adapte en fonction des situations et qui est de ce point de vue-là particulièrement pernicieuse en quelque sorte et particulièrement difficile à critiquer parce qu'on ne va pas... On ne mobilise pas toutes ces modalités de gestion sécuritaire au nom de, comme le faisait le fascisme, au nom de, je sais pas, de la défense de la race ou je ne sais quoi, mais on la mobilise au nom de la démocratie, donc au nom des gens, oui. Et du coup, c'est pour ça que de la critique de Nucleus et de la critique de la sécurité telle qu'on a voulu l'élaborer, la mener dans ce bouquin et dans cette émission, c'est que la critique de la sécurité doit être nécessairement, à notre avis, articulée à une critique radicale de la démocratie. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas défendre les droits démocratiques. Oui, tant qu'on est dedans, oui. Mais il faut l'articuler à une critique radicale de la démocratie aussi.
Et peut-être pour conclure sur ce que tu dis, on pourrait presque dire que le fascisme, c'est justement la sécurité à un stade du capitalisme où cette sécurité ne peut être assurée que par un système extra-constitutionnel avec une suspension des lois démocratiques, alors que maintenant on est arrivé à un stade du capitalisme où on n'a même plus besoin, pour atteindre cet état de sécurité, de suspendre les libertés constitutionnelles.
Ouais, voilà. Et on peut aussi rajouter le fait que le fascisme, c'était quand même un mode de gouvernement et un régime politique qui correspondait à un stade spécifique du capitalisme, avec un mouvement ouvrier quand même fort, avec une menace révolutionnaire, avec l'URSS, etc. Du point de vue des imaginaires qui lui étaient associés. Tout cela a disparu, avec notamment le mouvement d'intégration du prolétariat qu'on a mentionné à diverses reprises dans cette émission. Et du coup, aujourd'hui, on n'a plus besoin de passer au fascisme, puisqu'il y a plus une nécessité fonctionnelle de passer à un gouvernement fasciste. On peut ponctuellement mobiliser justement les mesures de certains dispositifs sécuritaires pour cibler certaines populations, recréer de l'adhésion, etc., sans passer par un régime fasciste, quoi.
Et ben du coup, Je pense qu'on a fait le tour un peu de cette critique de la sécurité comme catégorie fondamentale du capitalisme. Et on voit bien qu'on ne peut pas se limiter aujourd'hui à remettre en cause les politiques sécuritaires, à remettre en cause la répression policière, même si évidemment il faut le faire et c'est hyper important de décrypter ces phénomènes et de s'y opposer. Pour ce qui est de l'analyse, au moins, on l'a fait dans d'autres émissions de sortir du capitalisme. Mais il ne faut pas en rester là et il faut aussi remettre en cause fondamentalement le capitalisme et notamment une catégorie centrale du capitalisme qu'on n'avait pas forcément identifiée avant, puisqu'on avait identifié le travail sur lequel on a fait de nombreuses émissions, l'argent sur lequel on a fait une émission avec Léon de Matisse. Et puis, bah voilà, y a maintenant on a un nouveau venu dans cette liste des catégories fondamentales qu'il faut dépasser et abolir, c'est la sécurité capitaliste qui notamment a un impact très très quotidien puisque ça empêche des relations sociales qui ne soient pas pensées sur le calcul de risque et du coup évidemment ça limite forcément la sécurité, la richesse des relations sociales. Et en tout cas, on espère que cette émission aura permis de peut-être de repenser toutes ces questions et peut-être de porter une critique encore plus radicale, donc au sens d'aller aux racines du problème de la société capitaliste. Bon, bah merci Memphis.
Merci.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle. Mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.
Tu vois, il faut s'organiser pour ne plus jamais travailler.